Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La miséricorde est l'amour de Dieu qui aime et pardonne aux pécheurs. Il y a 8 jours, à Pâques, nous avons remercié le Seigneur qui, par sa résurrection, a montré que son amour est plus fort que la mort et le péché. C'est vite dit, c'est impressionnant. Et nous continuons de le remercier pour les siècles des siècles. Et aujourd'hui, 8 jours après, nous célébrons cet amour qui se révèle, qui se manifeste, qui s'accomplit même comme miséricorde. L'amour de Dieu se manifeste, se dévoile, se révèle, s'accomplit dans toute sa splendeur, dans notre quotidien, en tant que miséricorde. Ce qui nous pousse, normalement, à une transformation profonde, afin d'être à notre tour miséricordieux. Difficile, très difficile. Un grand don de Dieu, une prière qui doit être constante, certainement. Change mon cœur, transforme mon cœur. Le Seigneur ne se révèle pas, ou ne dit pas seulement que Dieu est amour. C'est cette grande révélation de Saint Jean, du Nouveau Testament, de l'Esprit Saint, Dieu est amour. Mais aujourd'hui, nous disons, oui, il est amour, mais il est miséricorde. Non seulement Dieu aime l'homme qui est juste, il aime ce qui est bon. Non seulement il aime tout d'une façon un peu générique, mais surtout si c'est positif. Mais non, mais Jésus ressuscité nous montre aujourd'hui que Dieu aime l'homme coupable, l'homme indigne. Dieu n'aime pas seulement les bons enfants, mais aussi les enfants rebelles et les êtres fragiles qui ne sont pas du tout dignes, qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas agréables, ni en eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils sont indignes, mais qui ne sont même pas bons pour Dieu, vis-à-vis de Dieu. Il faut aimer ses ennemis. Ça, on ne méditera jamais assez cela. Mais les ennemis, même de Dieu. Parce que Dieu aime ceux qui sont loin, et Dieu attend ceux qui sont loin, leur retour. Et les plus éloignés, et les plus pauvres, chaque page de l'Évangile parle des pauvres, dans tous les sens du terme, pas uniquement financièrement parlant. Dieu parle de ceux qui sont les plus hostiles, de ceux qui sont les plus mauvais. Voilà ce qu'il aime. Voilà ce qu'il aimera toujours. La nouvelle dimension de cet amour de Dieu, de la révélation de Jésus-Christ, du Christ ressuscité. Mais c'est sûr que cet amour à l'égard des êtres indignes est inexplicable, parce que nous disons, mais attends, mais ça colle pas, c'est pas logique. Ça va contre tout, contre cette logique, contre même mon fonctionnement philosophique, métaphysique dans ma tête, ça colle pas, c'est contradictoire. Il faut changer quelque chose dans ma tête, dans mon cœur surtout. À moins de dire, c'est une grosse piste, c'est, je pense, la piste, cet amour de Dieu est un amour rédempteur en lui-même. Il rachète, il aime, et en aimant, il rachète. On ne tardera pas à parler du péché, bien sûr, et du pardon, bien sûr. Mais un amour qui rachète, du simple fait d'aimer, la personne est rachetée. Elle retrouve ses droits. Un amour rédempteur. En tout cas, en préparant ça, j'étais même très ému, de l'exprimer comme ça. Dieu m'aime de l'amour rédempteur. Dieu aime tout le monde de l'amour rédempteur. Dieu meurt sur la croix parce que son amour est rédempteur. Et il meurt pour ses ennemis. Il meurt pour ceux qui le tuent. Et en aimant le pécheur, Dieu donne paternellement un exemple de la bonté suprême. Et dire que c'est un amour qui est rédempteur, eh bien, bon, je pense, veut dire, ou ne peut se comprendre qu'en disant « Dieu sauve l'homme par son pardon ». Et on joue autour du même mot. Un amour rédempteur, un amour qui pardonne, un amour qui rachète, qui achète de nouveau, un amour qui recrée, recréateur, rédempteur, racheteur. La miséricorde se penche sur le mal, sur le pécheur, sur le méchant. La miséricorde s'y penche non pour que le mal demeure, non pas en disant ce n'est pas mal, non pas pour dire cette misère sur laquelle je me penche n'existe pas, pas du tout. Non pas parce que le mal, le péché demeure et que la personne continue d'être injuste. Et non pas qu'on aime le pécheur et qu'on délaisse les bons et les justes et les innocents. De toute façon, il n'y en a pas. On n'est pas innocent. On n'est pas juste. Nous faisons tous l'objet de l'amour miséricordieux, racheteur, Dieu m'aime, et à chaque fois, en m'aimant, il me pardonne. Il doit me pardonner, parce que je ne suis pas impeccable. Je ne suis pas impeccable. Et étant pécheur, peccable, j'ai toujours des choses à nettoyer. Lorsque Dieu m'aime, il est miséricordieux. Il est toujours miséricordieux vis-à-vis de moi. Donc là, toute comparaison stupide, en pensant, si je suis juste, est-ce que Dieu... Ben non, il faut pas faire de tri là-dedans. Nous sommes tous dans le même sac, à comprendre. Mais que Dieu aime, c'est évident, que toute personne, étant tous des pécheurs, nous le sommes tous, eh bien, il nous aime pour que la justice reprenne ses droits, pour que la justice soit rétablie, pour que nous nous convertissions et comprendre l'amour miséricordieux de Dieu dans nos poussées. Je pense que Saint José Marie avait compris ça très bien lorsqu'il disait « Ma dévotion préférée, ce sont les actes de contrition. » Et il était libéré à chaque fois qu'il faisait un acte de contrition sincère qui le conduisait à lutter davantage pour s'approcher davantage de la justice, de la justesse à l'égard de Dieu. J'essaye d'affiner, j'essaye de me convertir, j'essaye d'être fidèle, j'essaye de ne plus pécher. Vraiment! Je sais que Dieu me pardonne. Dieu est bon parce qu'il est amour, parce qu'il est miséricordieux. Mais moi, de mon côté, j'essaie de ne pas recommencer. Vraiment. Et mon acte de contrition est sincère. Et Dieu m'aime encore plus. Parce que ses bonnes dispositions, il les voit, il les bénit. Et je comprends que Dieu m'aime moi méchant. Dieu aime le méchant, non parce qu'il est mauvais, méchant, mais pour me rendre bon. La finalité, pourquoi Dieu m'aime comme ça? Pour me convertir, pour que je me convertisse, pour que je change, et que je ne m'habitue pas à même à mes fautes, et pour me ramener à, sur le bon chemin, bien sûr, à agir droitement, à la droite morale, à la morale droite, et que je m'épanouisse dans cette lutte, dans cette contrition, dans ce constat de l'amour miséricordieux de Dieu qui me relance toujours, mais que j'ai besoin, je fais l'objet de la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, la liturgie, dimanche de la miséricorde, de la divine miséricorde, aujourd'hui, une nouvelle fois, nous sommes invités à méditer sur cette relation singulière, une fois de plus, entre la miséricorde et la justice, qui est vraiment l'un des problèmes les plus profonds qui soit. Mais en même temps, c'est aussi une des questions les plus clairement résolues par le christianisme. Dans la théorie, c'est difficile. Dans la pratique, c'est très facile. Personne ne pense que la miséricorde de Dieu soit complice du mal. Personne ne pense que la miséricorde de Dieu soit complice de l'injustice. Personne. Personne ne pense que la miséricorde de Dieu relativise la loi morale, affaiblisse la loi morale. Pas du tout. La miséricorde de Dieu, merci Seigneur, manifeste à tout le monde qu'elle et elle seule est capable de récupérer le bien perdu. Seule la miséricorde permet de rembourser par le bien le mal qui a été fait. Seule la miséricorde est capable de générer de nouvelles forces, de justice, de sainteté, de conversion. Oui, la liturgie de ce dimanche nous montre l'essence de toute liturgie, finalement. Lorsqu'on est autour de Pâques, c'est pas étonnant qu'on touche au sommet et de la liturgie et de la vie du calendrier, donc de notre vie chrétienne. Quelle est l'essence de toute liturgie? Qu'elle cherche à opérer une rencontre avec le Seigneur ressuscité. La liturgie veut toujours que nous rencontrions le Christ ressuscité, triomphant, vainqueur du péché, du mal, de la mort. Et nous terminons l'octave de Pâques par ce dimanche de la divine miséricorde, et on ne quitte pas le sujet, cette rencontre avec le Seigneur ressuscité, et la messe obligatoire du dimanche, parce que c'est la manière de rencontrer le Christ ressuscité, en souvenir du dimanche de Pâques, et que tout est centré autour de cela. Parce que le ressuscité, que nous devons rencontrer tout le temps, par n'importe quel acte liturgique, le ressuscité vit dans la dimension de Dieu, c'est-à-dire au-delà de l'espace et du temps. Quoi que nous fassions, à n'importe quel moment, à n'importe quelle étape de notre vie, notre but suprême, c'est de rencontrer le ressuscité, quelle que soit la circonstance d'espace ou de temps. Mais Dieu s'adresse à des êtres incarnés, corporels, temporels, toi et moi. Et donc cette rencontre avec cette dimension éternelle de Dieu, qui est au-delà de l'espace et du temps, mais chaque rencontre se réalise dans un vrai espace, dans cette chapelle, dans un temps déterminé, ce deuxième dimanche de Pâques. Aujourd'hui, je dois rencontrer le Christ ressuscité. Et demain aussi, et après-demain aussi, comme je l'ai fait hier et avant-hier, et dimanche dernier, dimanche de Pâques. Moi, dans l'espace et dans le temps, je cherche à opérer cette rencontre avec le ressuscité. Et donner une dimension d'éternité à mon espace et à mon temps. Et pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, cette divine miséricorde, de faire cette expérience de la miséricorde divine tous les instants de ma vie. Saint Jean-Paul II a voulu donner à ce dimanche, après Pâques, le nom de dimanche de la divine miséricorde, avec une icône très précise, celle du côté percé du Christ, d'où jaillissent le sang et l'eau, selon le témoignage oculaire du jeune apôtre Jean au pied de la croix. Mais une fois ressuscité, du cœur du Christ jaillissent les sacrements pascaux, pascal, vivants. Surtout, les sacrements du baptême et de l'Eucharistie, ce qui donne, qui accorde le don de la vie éternelle. Pour des raisons que nous connaissons très bien. Et l'évangile que nous allons lire dans quelques instants montre justement comment le ressuscité aide et confirme dans la foi l'apôtre Thomas pour confirmer et raviver la foi de chacun d'entre nous. Parce que nous identifions très bien avec cet apôtre Thomas, avec ses attitudes, ses doutes, et ce désir d'expérience même sensible. Et nous voulons rencontrer le Christ en le touchant aussi. Nous allons le toucher par l'Eucharistie. Nous le touchons chaque jour par l'Eucharistie, le ressuscité. Et ce passage de l'Évangile, en effet, montre la bonté miséricordieuse du Christ qui, pour aider la foi de saint Thomas l'apôtre, réapparaît dans le Cénacle, le Christ ressuscité qui se soumet au désir de Thomas. Il faut le faire. 8 jours après. Et Jésus qui demande à cet apôtre, vas-y, pose tes doigts sur mes côtes transpercées. C'est de là que concoulait le sang et l'eau lorsque j'étais sur la croix. Touche, mets ta main, mets tes doigts. Opère cette rencontre. Cette rencontre. Et la liturgie nous propose d'avoir recours à cet homme incrédule, Thomas, qui, malgré son incrédulité, il a su poser, il a su aller aussi sur le côté du Christ et ce côté transpercé à cause du péché. Thomas, qui a touché ce côté ouvert. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres apôtres qui ont touché le côté ouvert du Christ. Peut-être pas. Il ne peut pas oublier cette rencontre, ce contact. Et Thomas touche ce cœur, il reçoit ce rayonnement de la divine miséricorde. Cette image qui représente la divine miséricorde, ce sacré cœur qui rayonne d'une façon éblouissante. Et Thomas a été touché par cet rayonnement de miséricorde. Toute chose, je cite sainte Faustine Kowalska, toute chose commence dans sa miséricorde et se termine dans sa miséricorde. C'est pour cela que saint Jean-Paul II a consacré ce dimanche à cette divine miséricorde. Et tout dans la liturgie d'aujourd'hui nous parle de miséricorde. La décision de saint Jean-Paul II fut aussi inspirée par les révélations privées reçues par sainte Faustine. Et celle-ci a vu partir de la côte du Christ, de la plaie ouverte du côté, deux rayons de lumière, un rayon rouge qui représente le sang, et l'autre un rayon blanc qui représente l'eau. Tout est très logique. Et si le sang évoque le sacrifice de la croix et le don de l'Eucharistie, l'eau rappelle donc, bien sûr, le baptême et le don du Saint-Esprit. Et c'est à travers le cœur transpercé du Christ crucifié que la miséricorde divine rejoint les hommes. Elle passe par là, toujours. Il faut beaucoup aimer le crucifix. Il faut souvent regarder le crucifix, le Christ en croix, moi pour moi, pour que la miséricorde jaillisse à jamais de son cœur. Jésus, je cite encore Sainte Faustine, est la miséricorde en personne. Un mot de Saint Jean-Paul II, qui était évidemment très saisi par cette divine miséricorde, il a écrit cette encyclique que nous avons lue, « Dives in misericordia ». Dieu est riche, débordant de miséricorde. Je cite, « La miséricorde est le deuxième nom de l'amour ». Et Saint Jean-Paul II développe que ce nom, miséricorde, souligne son aspect le plus profond et le plus tendre de l'amour de Dieu, c'est-à-dire la capacité et la disponibilité de subvenir à chaque besoin. Comme il s'est rendu vers Saint Thomas. Mais que parmi les aspects soulignés, eh bien, surtout, il souligne le besoin du pardon qui est le nôtre. À la grande blessure, je cite, de l'âme, correspond la grande miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu es le remède. Et tu utilises l'onguent de la plaie de ton côté pour soigner le cœur de Thomas, qui est blessé par l'incrédulité. Et le remède de la miséricorde, Seigneur, de ta miséricorde, est toujours plus grand que les erreurs humaines. La phrase qui suit peut sembler de la sensiblerie, mais pas du tout. Jésus, à la rencontre de Thomas et des autres apôtres et de tous, il ne nous demande pas « qu'est-ce que tu as fait ?» Il nous demande « m'aimes-tu ?» Comme il demande dans ce moment critique, suprême, à Saint-Pierre, après la résurrection, avant de le confier à l'Église, m'aimes-tu ? Et c'est la seule réponse juste qu'il attend de nous en se dimanche de la miséricorde, en faisant notre prière. Eh bien, il est en train de nous dire, m'aimes-tu ? Et nous savons très bien, nous avons beaucoup de formations pour savoir comment répondre et comment être cohérent avec cette réponse par des œuvres, par des actes. Et nous pouvons dire, je l'aime, mais si les actes ne suivent pas, je ne l'aime pas. Donc, en étant cohérent, donc loin de la sensiblerie, mais Dieu nous demande aujourd'hui très particulièrement, m'aimes-tu ? Essayes-tu de me montrer à moi et aux autres, parce que c'est la conséquence immédiate dont on n'aura pas le temps de parler, le second volet logique de cette méditation. Est-ce que tu es conscient de ma miséricorde ? Alors, est-ce que tu es miséricordieux avec les autres ? Est-ce que tu te plies en quatre pour les autres ? Est-ce que tu essayes d'aimer les autres par des œuvres, par des actes ? Ou est-ce que tu arrives à avoir parfois des attitudes qui sont vraiment, vraiment honteuses ? Je sais pas. Saint-Pierre, comme nous aussi, n'a que sa douleur comme réponse au Christ. Il pleure amèrement. Et cela suffit à Jésus, lorsque c'est un pleur sincère. Un pleur qui nous plonge dans la joie. Si nous disons, comme sainte Faustine, « Seigneur Jésus, j'ai confiance en toi. » C'est sûr que le fait de constater plus profondément avec notre intelligence que Dieu est miséricorde et que nous pouvons lui faire confiance parce qu'il sera toujours miséricordieux ne peut nous plonger que dans la joie, ne peut être que source de joie. Jésus est miséricorde. Alléluia. On peut ajouter. Jésus est envoyé par le Père pour nous faire apprendre que la caractéristique suprême de l'essence de Dieu pour l'homme est la miséricorde. Il n'y a rien de plus profond, nous touchons, parce que nous sommes pécheurs et que Dieu nous touche tel que nous sommes, au noyau même de notre intimité qui est blessé par le péché originel et qui n'est pas assez purifié par une volonté absolue de sainteté et de lutte. Par conséquent, en terminant notre méditation, nous pouvons demander, et nous demander si nous sommes toujours conscients de ce que nous avons, de ce trésor. C'est-à-dire, nous sommes, oui, nous avons l'être, la liberté, l'amour, l'espoir, le pardon, chaque grâce. Nous vivons de la miséricorde divine. Nous vivons grâce à la miséricorde divine, grâce à cette aumône constante que Dieu nous fait. L'aumône, qui est l'une des manifestations, bien sûr, de la charité, l'aumône. Aumône en grec veut dire miséricorde. C'est étonnant. Dieu me fait l'aumône en permanence, en me pardonnant, en m'aimant, en me relançant. Et l'évangile est un évangile de miséricorde. La bonne nouvelle de Jésus est une bonne nouvelle de miséricorde. J'ai le temps de dire ces deux lignes de Paul Claudel. À partir du moment où Jésus est ressuscité, toute la douleur qu'il y a dans le monde n'est pas douleur d'agonie, mais douleur d'accouchement. Tout ça, très bien. Donc, notre vocation, comme celle de Thomas et de tous les apôtres, c'est d'annoncer cet évangile de miséricorde. Et nous disons, oui, le charisme du pardon, de la confession est un beau charisme dans l'Opus Dei. Vous parlez tout le temps de miséricorde, tout le temps de confession, tout le temps de pardon, d'amour, de joie. Ce commentaire de Saint Jean-Paul II, eh bien, nous le prenons. Et nous en avons l'exemple dans le visage de la mère de Jésus, comme nous y invite, et nous terminons par là, le pape François. Apprenons à être miséricordieux avec tous. Invoquons l'intercession de la mère de Dieu qui a eu dans ses bras la miséricorde de Dieu. La Vierge Marie fut la première à contempler le visage de la miséricorde du Père. C'est pourquoi le pape François, n'est-ce pas, ne se lasse jamais de répéter que le prénom de Dieu est miséricorde. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqué dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.